à l'histoire de Corée avec Shilla unifiée.
Le Shilla est atteint son apogée au milieu du 8e siècle sous le règne du roi Gyeongdo. Sa capitale Gyeongju comptait plus d'un million d'habitants, c'est-à-dire 10 fois plus qu'aujourd'hui.
Et oui, au 8e siècle, 1 million d'habitants pour une ville, c'est quelque chose de très considérable. Ce fut aussi une ère de développement intensif pour le bouddhisme qui était déjà présent depuis longtemps, puisque ce sont les Coréens qui l'introduisirent au Japon avec les caractères chinois en 538.
Mais il devint à cette époque religion d'État et ses traces sont incontournables encore aujourd'hui à Gyeongju.
Le bouddhisme empêche l'éthique confucéenne de complètement s'implanter malgré les études que continuaient d'en faire les classes dirigeantes. Mais même les meilleures choses ont une fin.
Le déclin commence à la fin du 8e siècle, la cour étant affaiblie par des luttes intestines. Certains seigneurs commencèrent à vouloir reconstituer les anciens royaumes de Goguryeo et de Baekje.
Parmi les différents conflits, c'est un fils de marchand,
Wang Gun,
dans la région de l'ancien Goguryeo.
Il devint si puissant que le Shilla, se sentant menacé par le royaume de Baekje, en train de reconstituer, fit
le roi de Shilla,
Kyongsun,
jugeant la situation irrémédiable, eut la sagesse de donner part à Wang Gun afin d'éviter les effusions de sang.
Non seulement le nouveau roi rétablit l'ordre en écrasant la rébellion de Baekje, mais il à l'ancien roi un poste important à la nouvelle cour.
En 936, la péninsule pacifiée s'appelle désormais Goryeo, contraction de Goguryeo, d'où descend le nom occidental de Corée.
Goryeo, avec Wang Gun devenu le roi Taejo, qui réorganisa la société coréenne.
En fait, pas grand chose ne change, l'aristocratie garda son pouvoir et les sont calquées sur celles de la Chine des Tang et des Song, bien que quand même moins marquées par le confucianisme.
Car le bouddhisme reste fort et religion d'État, il y a eu des tentatives d'invasion de Kitang de Chine, repoussées en 983 et en 10, puis l'amputation d'un territoire au nord-est pour avoir la paix.
Et je crois que la première invasion des Kitans, enfin tentative, c'était en 993 et non pas 983.
Ah,
mais enfin bon, malgré ces petits problèmes, cette période est une ère de développement artistique importante, et cela grâce aux efforts de la dynastie pour développer les arts et au bouddhisme en pleine expansion.
Ont été conçues les tablettes du Tripitaka coréen et qu'on voit aussi se réaliser les plus beaux céladons. C'est sous le Goryeo que les Coréens ont inventé les caractères mobiles d'imprimerie vers 1234, 200 ans avant Gutenberg.
Le bouddhisme est en pleine expansion et certains religieux n'hésitent pas à jouer un rôle à la cour, ce qui ne sera pas apprécié par tout le monde. Mais c'est du côté des militaires que vient le changement.
Ne supportant plus que le pouvoir reste l'exclusivité des civils souvent corrompus, en 1171, ils renversèrent simplement le gouvernement et mettent des militaires aux postes importants.
Les rois sont désormais désignés et n'ont plus qu'un rôle de figuration.
Les militaires, de même la dynastie de Jin, qui se soumettra au Goryeo en 1126, mais le mal est fait, la cour est affaiblie alors qu'un nouvel ennemi s'intéresse à elle. L'ennemi qui menace la Corée au XIIIe siècle et à la fin.
Eh bien, si la Chine a fait construire la Grande Muraille, ce n'était pas pour rien, les Mongols étaient sur le pied de guerre.
Demander de l'aide aux Mongols contre le Kitan et de que les Mongols accordèrent un prix exorbitant.
Et donc, au bout d'un moment, les relations mongoles se dégradèrent. Après avoir défait les Tartares, Pékin à sac, ils envahissent donc sans scrupule la péninsule en 1234.
Les Mongols mettent le pays à feu et à sang. En 28 ans, ils envahissent autrefois la Corée pour réussir à la soumettre en 1259 à qu'ils ont fondée en Chine, la dynastie des
La
Yuan.
cour royale de Goryeo se voit liée par le sang aux Mongols, car les rois coréens sont éduqués à Pékin et épousent des princesses mongoles.
Le peuple doit grossir les rangs des armées mongoles contre le.
Au siècle suivant, les Mandchous au nord et les Japonais au sud s'amusent eux aussi à faire des en Corée, alors que la puissance mongole décline. Les Mongols règnent donc, entre guillemets, en 1368 sur la Corée.
Ils sont défaits en Chine et une nouvelle dynastie établie. Les Coréens essayent de prouver leur fidélité envers les Mongols en envoyant en 1380 une armée de 38 800 hommes dirigée par Yi Sangay.
Et oui, celui-ci arrive au bord donc du fleuve Yalu, qui est un petit peu la frontière à l'époque entre la Corée et la
La
Chine.
Chine.
Et puis, bah, pas fou, il fait demi-tour, se débarrasse de ses adversaires politiques et se fait céder la place à la cour royale, à la cour royale de Goryeo, affaiblie. C'est ainsi que fut fondé, pardon, en 1312, le royaume de Joseon.
Il en devint le premier roi sous le nom de Taizo, sous le regard bienveillant des Ming de Chine.
Et c'est sous notre regard bienveillant que nous allons nous attarder sur quelques lettres. La lecture de notre courrier.
Non, en 1392, avec le royaume de Joseon.
Et c'est à partir de cette dynastie que le communisme devient prédominant en Corée. Elle commença ses réformes par l'abandon du bouddhisme, remplacé donc par le confucianisme, qui devient une religion officielle. En Corée, ce n'est pas exactement une religion.
La noblesse dévouée aux Goryeo fut écartée et remplacée par des familles alliées. Enfin, la capitale du royaume est transférée à Hanyang, ville aujourd'hui appelée Séoul.
Le confucianisme, par la codification et la hiérarchisation des rapports entre les hommes, a apporté une grande stabilité, mais aussi, il faut le reconnaître, une inertie et un conservatisme certain à la société coréenne.
Les débuts sont prospères. Le roi, rayonnement culturel de la Corée fut immense dans des domaines tels la philosophie, la musique ou la science.
C'est pendant cette période que régna qui encouragea l'utilisation des caractères mobiles d'imprimerie pour permettre la diffusion extensive des livres chinois. Et son petit-fils est encore plus connu.
C'est Sejong le Grand qui permettra l'apogée du développement de cette époque, favorisant des développements scientifiques pour le bien du peuple. Ce point de vue comparable à Henri IV.
Mais une partie de ces développements pratiques, notamment l'usage du hangul, l'alphabet coréen, fut entravé par les hauts fonctionnaires qui craignaient de perdre leurs privilèges.
Une succession de rois vertueux au sens confucianiste du terme assura la prospérité de la dynastie jusqu'à la fin du siècle.
Oui, ce jusque quand les factions rivales se reformèrent et affaiblirent le pouvoir central durant tout le siècle, entraînant la détérioration de la situation économique. Et plus que jamais, cela tombait mal.
Car des convoitises se réformaient ailleurs.
Mais cette fois, le danger ne vint ni du nord, ni de l'ouest, de l'est, pardon. Tu vas me dire quel est ce nouvel ennemi qui menace le pays du matin clair?
Eh bien, au XVIe siècle, ce sont les Japonais.
Car le shogun Toyotomi Hideyoshi a unifié l'archipel nippon.
Et donc les samouraïs s'ennuient. Hideyoshi décide alors de se lancer à la conquête de la Chine. Il lui faut pour cela traverser la Corée.
Celle-ci s'y oppose bien entendu, car les Ming sont alliés de la Corée.
Devant ce refus, Hideyoshi décide d'attaquer d'abord la Corée. En 1592, donc 150 000 soldats débarquent à Busan.
2 semaines plus tard, la capitale est prise et les Japonais continuent leur route vers la Mandchourie où les Chinois leur résistent.
Le roi Sangyo a pu se réfugier au nord, donc la Corée ne capitule pas.
Pendant 7 ans, la guerre se poursuivra. Les paysans et les moines bouddhistes, tous volontaires, continuent de lutter.
Il y a aussi de l'amiral Yi Sun-shin qui inventa les pâtes de tortue, ancêtre acier moderne qui permirent de vaincre la flotte japonaise, coupant ainsi les ravitaillements vers le continent.
Hideyoshi vient de mourir, les Japonais abandonnent.
La Corée et la Chine sortent dévastées de ce conflit.
Mais les Japonais ne partent pas les mains vides, des milliers de livres, des artisans et des potiers quittaient le continent à jamais.
La Corée et la Chine sont ruinées, les Manchus s'en félicitent.
Et les tribus Manchus se lancèrent dans une série de conquêtes dont, encore une fois, la Corée allait faire les frais.
Les Coréens décidèrent de s'allier aux Chinois pour pouvoir faire face, mais les deux pays étaient trop affaiblis pour pouvoir résister.
La Corée signa en 1627 un traité de paix soumettant la Corée, malgré ses liens avec les Ming, le tribut est lourd, or, argent, tissu et même chevaux.
Les Manchus, ayant fondé la dynastie des Qing, continuent leur conquête contre la Chine et c'est la Corée qui paie.
9 ans plus tard, la Corée ne peut plus payer. Elle envoie une déclaration de guerre au Qing. La réponse fut foudroyante.
Tête et humiliante, les Chinois tombèrent aussi en 1644.
Les Coréens, considérant après tout ça que rien ne venait de bon de l'étranger, décident de couper tous les liens vers l'extérieur.
C'est ainsi que la Corée devint le royaume ermite. Ermite jusqu'en 1800. À la fin du 19e, donc.
Eh bien, on parlera de cet épisode plus récent une autre fois.
En tout cas.
Voilà, donc on est arrêté en 1642, mais bon, je m'excuse, Yumi et Yann, mais il y a de nombreuses coupures sur le fichier. Because beaucoup de coupures via Internet, n'ayant pas l'ADSL. Voilà, j'espère que quand même vous pourrez écouter ce fichier. Merci, au revoir, à bientôt.